Les banques n'apprécient pas, Pierre-Yves, l'inversion des courbes de taux.
Non, écoute pas ce qui se passe. C'est que les taux de financement à long terme, donc les emprunts ou plutôt même les investissements en obligations, donc quand le gouvernement émet des obligations, quand il y a des obligations à long terme, on voit que les taux long terme sont faibles et que les taux court terme sont plus élevés. Ce qui est précurseur normalement durant les dernières années ou les dernières décennies d'une genre de récession. T'sais, si on regarde, là, depuis 1970, il y a eu 7 récessions américaines puis ont été précédés de courbes de taux inversées. Donc, ça dit aux gens, écoutez, si en 2008, il y a eu une récession, ben en août 2006, ben il y a eu une inversion de courbe. Si en avril 2001, il y a eu une récession aux États-Unis, ben en août 2000, il y avait eu une inversion de courbe. Donc, c'est un signe précurseur. C'est pas garanti, mais c'est un signe précurseur. Et les banques ont de la difficulté dans ce temps-là à gérer leur marge de profit ou leur marge nette d'intérêt, parce que là, le client se questionne. Et ça nous amène à se dire comme client, ben écoutez, peut-être que le taux directeur va stagner cette année ou même baisser, voyant cet ombrage au tableau. Et ça nous amène potentiellement sur nos dettes variables à se questionner, à savoir, est-ce qu'on s'inquiète? La réponse, c'est moins. Parce qu'on se dit, s'il y a une stagnation du taux directeur ou une baisse du taux directeur, moi comme client, je vais me retrouver à payer un peu moins ou n'a pas augmenté mon paiement.
Mais si on regarde un indicateur, la Fed, la Réserve fédérale américaine, semble dire, et on n'est qu'en mars, que ça va rester stable. Le taux directeur va demeurer stable jusqu'à la fin de l'année.
Même Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Réserve américaine, a dit, écoutez, pour l'instant, c'est pas une récession que je vois, mais la nécessité de baisser les taux d'intérêt. Donc, c'est intéressant quand même. Quelqu'un qui a son prêt hypothécaire variable peut quand même souffler un petit peu.
Alors, restons dans la planification fiscale à long terme. Est-ce qu'on doit contribuer ou non au REER du conjoint ou de la conjointe?
J'en ai déjà parlé. Je t'ai déjà dit, ben là, tu sais, c'est un risque financier, c'est la plus grande preuve d'amour. Ça, on a déjà parlé. Parce qu'on dit que c'est une stratégie de fractionnement de revenus à la retraite. Si tu contribues au REER de ton conjoint ou de ta conjointe, c'est toi qui prends la déduction, mais ça réduit ton plafond. Et c'est cette personne-là qui a l'argent au bout du compte. Et ça permet de le déclarer via ses revenus. Par contre, en gestion de risque, puis avec les outils qu'on a, est-ce qu'un homo economicus, là, un contribuable ou un particulier qui va avec logique, devrait pas simplement oublier cette option-là et dire « Ah ouais, on va planifier ensemble à long terme, je vais à place remplir mon CELI.
Mm-hmm.
Puis à la retraite, on partagera. » Comme ça, si on n'est plus ensemble, au moins, je garde mon CELI, tu sais.
Oui, oui. Et tu gardes le tien.
Et tu gardes le tien, toi, tu gardes tout. Donc, ouais. Et ce que je veux dire par là, c'est que le CELI et le REER, pour la majorité des gens, toutes choses étant égales par ailleurs, si le taux d'imposition ne baisse pas significativement à la retraite, c'est relativement semblable. Surtout si vous faites beaucoup de rendement dans vos placements, le CELI peut être très payant. Donc, une personne qui vient pour contribuer au REER de son conjoint pour 2 000 $ devrait peut-être simplement mettre 1 000 $ dans son CELI à la place et ne pas avoir le remboursement fiscal et se dire, au pire, à la retraite, je fractionnais de mon revenu à l'aide du CELI qui n'est pas imposable et comme ça, j'aurais pas de risque conjugal de finances.
C'est bien, c'est très bien. McDonald's qui fait une acquisition. Non pas une accusation, mais une acquisition.
Oui, mais pas. Ah. J'aime ton lapsus parce que oui, parce McDonald's que accuse nos goûts. Donc, ils ont acquis Dynamics Yield, OK, qui est une entreprise pour 300 millions de dollars américains. Et qu'est-ce qu'on fait? On acquis une entreprise qui joue dans l'intelligence artificielle un peu. En fait, l'entreprise peut moduler, dans le fond, les écrans des menus en fonction de la température, en fonction de nos goûts. Tu sais, par exemple, tu arriverais chez McDo, puis c'est pluvieux, on te vend du café. Tu arrives chez McDonald's,
il fait chaud,
je te vends des McFlurry. Tu es dans une région où le filet de poisson pogne plus qu'ailleurs. Moi, t'as aligné un filet de poisson dans le menu en promotion. Tu sais, on pourrait, chez McDonald's, commencer à commander ou proposer au client de jouer dans sa tête pour influencer ses choix. Mais as-tu pensé, Paul, si tu fais ça, t'influences tes commandes, donc t'influences tes stocks, donc tu peux aller en amont. Au lieu d'attendre que le client te commande puis tenter d'apparier ton stock avec ce qu'il veut, tu fais l'inverse. Tu lui mets dans la tête ce que tu veux vendre.
Ouais.
Mais c'est un peu ça.
Ouais.
Et il y a 38 000 restaurants McDonald's. Si tu regardes les états financiers, là, ce qui est phénoménal, c'est qu'on se rend compte que les revenus provenant des restaurants franchisés augmentent et les revenus provenant des restaurants opérés par McDonald's diminuent parce qu'on veut retourner dans les franchises. Et ça fait en sorte, ce qui est spectaculaire, c'est que c'est plus rentable pour McDonald's. L'an dernier, en 2017, 700 millions de bénéfices nets. Cette année, 1,4. On a presque doublé. Mais ce qui est fou, c'est qu'on coupe dans les coûts et on transfère aux franchisés, dans le fond, le risque d'affaires. Mais on génère une belle marge, là.
Bien sûr.
5 milliards de revenus, 1,4 milliard de bénéfices nets. Quand même, tu vends des hamburgers pas chers, pas.
Oui, et un retournement de situation. Tu te rappelles, il y a quelques années, Pierre-Yves, on commençait à voir premier, on disait, oups! L'empire McDonald's commence à être ébranlé, je sais pas, en tout cas. Et t'as vu le retournement de situation?
Mais là, ce qu'on s'en vient pas, c'est que là, McDonald's, ce qu'il veut, dans le fond, c'est même éliminer les caissiers, que t'arrives dans le stationnement de McDo, que t'as une application sur ton téléphone. Je te propose, dans ta région, avec la température qu'il fait, un trio Big Mac accompagné d'un McFlurry, et tu peux commander en pesant ici, et t'arrives en dedans et ta commande est prête.
Ouais.
C'est là qu'on s'en va.
Ben, il y a beaucoup de restaurants, c'est déjà comme ça. C'est-à-dire que tu es toi-même qui, devant un panneau interactif, là, écran tactile, et tu composes toi-même ton hamburger
ou en fait ton trio. Mais imagine, avant, tu avais 7 caissiers ou caissières pour servir les gens. Maintenant, tu en as un centre de distribution, il y a une prise de commande et le reste se fait avec le panneau. Donc, on réduit les coûts d'employés, on réduit les avantages sociaux et on concentre les bénéfices dans les poches des actionnaires.
Merci Pierre-Yves, à demain.
Allez.